Cette semaine à la vie en BD, quand la bande dessinée s'intéresse à la hiérarchie sociale. Bon mardi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 20h pour parler bande dessinée, pour parler 9e art et pour le faire en groupe, en collectif, en communauté, parce qu'on fait communauté cette semaine ici à La Vie en BD, mais en même temps, on ne fait pas que faire communauté, mais on commente également la communauté, on commente le faire société, les ancrages et les assises sociales, puisque c'est un club de lecture, qui est consacré à des grandes thématiques sociétales. Alors, on sortira nos accents professoraux, on sortira nos analyses, nos philosophes et nos assises historiques. Pour vous entraîner autour, vous l'aurez deviné, autour de 4 titres, de 4 albums qui ont été choisis autour d'un même thème pour lequel j'ai donné certains indices et certains concepts. Mais avant de s'avancer plus avant, je vous présente les 3 collaborateurs, mes 3 libraires en résidence par ailleurs qui, les 29 autres jours du mois, dorment et lisent des bandes dessinées. Alors, Émilie Roy-Brière, bonsoir.
Bonsoir, Raymond.
Édouard Tremblay, bonsoir.
Salut Raymond, salut tes auditeurs.
Et Marco Duchesne, bonsoir.
Bonsoir.
Évidemment, je mens en disant que vous ne lisez que de la BD, puisque vous lisez aussi parfois d'autres styles et genres littéraires, et même du roman graphique.
Non, je ne mens pas.
Alors, cette semaine, évidemment, on parle de club de lecture. Je rappelle le concept. En fait, il y a un ou quatre qui a choisi une thématique. Et évidemment, à partir de cette thématique, on a toutes contribué d'un album qui, pour nous, cadrait bien avec ce qu'on comprenait de la thématique. Et ensuite, on a lu les albums. On va vous les commenter au fil de la prochaine heure. Des albums qui, comme à l'habitude, sont fort différents dans le style, dans l'approche. Et évidemment, ça donnera, on l'espère, des discussions fort intéressante. Et je pense qu'il y a une petite compétition aussi dont je me suis volontairement exclu, mais qui est d'essayer de faire les thématiques avec les expressions les plus longues possibles. Pour l'instant, c'est la meneuse qui a choisi le thème pour cette semaine. Alors, Émilie Roy-Brière, tu y es allée avec un poétique. Tous les humains sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Alors évidemment, j'ai dû adapter ça pour que ça rentre bien dans les petits visuels que je propose sur la page Facebook ou la page Instagram de La Vie en BD, que vous pouvez d'ailleurs suivre incidemment. Et tout ça a lancé donc vers 4 albums. Je mentionne les albums et ensuite, Émilie, tu nous expliqueras pourquoi tu nous as proposé cette expression et tu nous présenteras également l'album que tu as choisi. Alors les 4 titres, c'est La boîte de petits pois de Guédré et Oli R chez Delcourt, Le château des animaux, 3 tomes de Xavier Dorisson et Félix Delep chez Casterman, L'Alcazar, une grosse brique de Simon Lamouret chez les éditions Sarbacane, et ensuite X-Men Power of X de Jonathan Hickman, Pepe Larraz, Herbie Silva et Marte Gracia chez Marvel Comics. Alors donc les 4 titres, je mentionne, Émilie, que tu as choisi de ton côté La boîte de petits pois. Alors pourquoi ce thème et pourquoi ce titre?
Est-ce qu'on peut d'abord prendre une seconde pour dire que je gagne quand même un point? C'est moi qui ai busté l'espace sur le visuel pour la thématique.
En fait, pour l'instant, c'est toi qui as le morceau de robot.
Oh, yes!
Watchez-moi bien la prochaine fois.
Donc, La voix de petits pois, ça va avoir l'air un peu étonnant. Ce qui m'a amené à cette bande dessinée-là, c'est d'abord la musique. Parce que Guy Edré, on me l'avait présenté dans un party de fête absolument mémorable d'un ami français qui avait mis quelques chansons françaises, dont une chanson de Guy Edré qui s'appelle « La bande à Jackie », qui est absolument mémorable. Mais là, Guy Edré, faut s'imaginer, elle est blonde, elle est pas grande, elle a des boucles d'oreilles en forme de cerise, elle porte des robes à fleurs, elle joue de la guitare, elle a une voix toute douce, et elle chante des choses absolument abominables. Je suis immédiatement tombée en amour avec Guy Hédré. Puis un jour, j'ai appris qu'elle avait fait une bande dessinée qui parle pas de musique du tout, mais qui va parler de son enfance en Lituanie. C'est un peu l'histoire de sa famille aussi en même temps, puis son émigration vers la France. Puis, un peu comme dans sa musique, tout est naïf, c'est dessiné au trait, c'est écrit en lettres attachées comme une bande dessinée pour enfants. Puis, ben, on va nous parler d'une chose aussi joyeuse que le régime communiste en Lituanie. Donc, j'avais envie de vous faire lire La boîte de petits pois.
Alors, évidemment, on comprend le lien avec l'égalité, puisque sous le régime communiste, évidemment, tout le monde est égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Voilà. Je continue avec la tournée des titres. Le château des animaux de Xavier Dorisson et Félix Delep. Ça, je pense que c'est Édouard Tremblay qui l'avait sélectionné.
Tout à fait, tout à fait. Ben, en fait, pour cette fois-là, hein, je me suis pas cassé la tête. Je suis allé directement avec, justement, un hommage, hein, à la ferme des animaux de Orwell. Parce que, bon, il y a eu, quoi, il y a 2 ans, justement, c'était l'anniversaire, je pense, du décès ou de la mort, je me souviens plus, mais on a eu comme ça une floraison d'adaptation de 1984 et aussi tout un florilège de versions de la fameuse ferme des animaux. Et pourquoi j'ai choisi en fait le château des animaux au-delà du dessin de la BD que je trouve super belle et tout, eh bien c'est que justement on s'est pas seulement contenté de transposer en fait l'histoire, le contexte orwellien. Ici, on va le réinterpréter. Et je pense même que c'était assez clair dans l'intention en fait justement des auteurs de pas refaire justement la ferme des animaux, mais de s'inspirer du truc pour remanier un peu tout ça. Et ben pour ceux qui justement connaissent un peu le contexte en fait de la ferme des animaux, ben c'était un peu une, justement, encore une fois on revient même au même thème qu'Émilie, c'était une satire en fait du régime communiste et de toutes les dérives en fait, toutes les inégalités bien sûr, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, qui vont émerger de tout ça. Alors ici encore, ben on retrouve ces thématiques là en fait.
Alors, on reste dans le communisme de votre côté. De mon côté, j'y suis allé avec L'Alcazar de Simon Lamouret, qui nous amène plutôt dans des régions orientales, qui nous amène autour, essentiellement, le personnage principal, c'est un édifice, un bâtiment en construction, L'Alcazar du titre, et on le voit des débuts du chantier jusqu'à progressivement la fin du chantier, alors que l'immeuble est peu à peu complété. Et pour moi, ce livre-là est aussi une manière par laquelle Lamouret nous entraîne à l'intérieur de cette société-là, nous entraîne à l'intérieur des castes, des groupes sociaux, des classes sociales dans cette société, entre des ouvriers qui habitent sur le chantier, entre des gens qui le surveillent, qui gèrent le chantier avec les pots de vin, les propriétaires et le reste. Donc, à travers ce projet mobilier-là, eh ben, on se retrouve justement face à un microcosme social qui est extrêmement riche, qui est extrêmement intéressant et qui visuellement, je trouve, est bien rendu aussi à l'intérieur de ces livres-là, aux dominantes un peu orangées. Bref, c'était au départ un bel objet qui s'est avéré être une belle lecture que j'avais envie de vous partager et qui, je trouve, s'insérait aussi assez bien là, par le truchement de la thématique d'Émilie. Et Power of X... J'ai envie de dire, en fait, Édouard Tremblay mentionnait que lui, son choix était un peu évident. J'ai l'impression que le tien aussi, Marco Duchesne, l'est également. Mais des fois, c'est pas parce que c'est évident que c'est mauvais, bien au contraire.
Non, tout à fait. En fait, l'idée de tout le monde est égaux, mais il y en a de plus égaux que d'autres. Je trouvais que là, ça fitait, le truc se collait parfaitement avec cet épisode des X-Men, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les X-Men ont été créés dans les années 60 avec Kirby et Stan Lee. Ont été créés un peu pour ça. Stan Lee avait comme l'idée de créer des gens, des mutants, des gens qui sont nés différemment des autres, avec des pouvoirs, avec des habilités, mais rejetés par la société parce que ils sont différents. Alors, bien évidemment, c'était pas une question de subtilité, mais Stan Lee avait décidé de développer cette série-là dans ce sens-là. Et effectivement, tout le long des ce titre va évoluer de cette façon-là. Les X-Men vont être haïs, pourchassés par des groupes religieux, par des groupes économiques, par des groupes militaires qui vont essayer de les détruire parce que, bon, ce qu'on connaît pas ne fait peur. Hein. Alors, ils ont été des gens ostracisés, puis mais Il y a quelques années, Hickman, à qui on a confié le titre, les X-Men, lui a développé ça autrement. C'est-à-dire que les X-Men, les mutants, sous la présidence ou le chef de Charles Xavier, ont trouvé une île qui s'appelle Krakoa. Et sur cette île-là, ils demandent à tous les mutants de venir sur l'île. Ils vont créer une nation. Et là, quand commence Power X, House of X, les mutants invitent des diplomates, des dignitaires de l'ONU, et là, leur explique que maintenant, sur l'île, il va y avoir une nation qui va être les mutants. Et que là, ils ont découvert une plante. Ils vont faire du troc avec la plante, avec une plante qui guérit, une plante qui peut servir de médicament, un peu miraculeux, même un peu. Et ils vont faire affaire avec les autres nations. Tous ceux qui vont les reconnaître comme nation vont pouvoir commercer avec les mutants sur l'île de Krakoa. Et là, tout le monde est égaux maintenant. Mais il y en a plus égaux que d'autres parce que, ben, un mutant, c'est aussi quelqu'un qui a des pouvoirs. Alors, on porte pas vraiment égal.
Alors, donc, quatre titres, quatre univers, quatre manières de s'approprier ces thématiques. C'est au final avéré riche en lecture et, je l'espère, riche en discussion. Évidemment, la question maintenant face à cette égalité, c'est par où commencer, comment départager. Alors, je me tourne vers un individu patibulaire avec des lunettes de soleil à l'intérieur pour une émission de radio, Édouard Tremblay.
On appelle ça un uniforme. c'est un uniforme. Mais donc, ben oui, on est encore dans quand même dans les grandes considérations universelles. Je veux dire, l'égalité, quel concept peut-il être plus fragile, plus volatile, plus relatif, source de débats, de combats, de revendications de tous bords, tous côtés, depuis... Mon Dieu, l'aube des temps, là, parce que faut pas se le cacher, souvent en état de nature, ben c'est la loi du plus fort, hein, c'est au plus fort la poche, c'est le prédateur qui l'emporte sur la proie, c'est bon. Et donc, ben tu sais, l'idée d'égalité entre les gens, entre les êtres, entre les sexes, entre les races, entre les peuples, ben c'est donc à quelque part l'ultime marque de notre civilisation. Ou la plus grande utopie humaine, parce qu'on n'y arrive jamais, parce qu'on essaye tout le temps et qu'on échoue systématiquement depuis des millénaires à atteindre, à quelque part, cette égalité-là. Et donc, de ces inégalités-là découle notre réaction, notre comportement face à elle, comment on va composer, comment on va... Et donc, c'est là-dessus, en fait, que j'aimerais un peu orienter, justement, les discussions, j'irais ce soir. Donc, tu sais, il y a l'inégalité, il y a celle qu'on accepte, celle qu'on combat, celle qu'on impose, celle qui nous est imposée, hein, et celle qu'on contourne. Donc, commençons avec celle qu'on impose et qui nous est imposée, avec, justement, Power of X. Magistrale histoire, bien sûr, menée de main de maître par Jonathan Hickman. Jonathan Hickman, je vous étudie Jonathan Hickman, je le répète. J'adore l'esprit labyrinthique et foisonnant de ce type-là. Ça prenait quelqu'un comme ça pour amener justement une idée aussi folle, aussi extraordinaire que de créer comme ça une nation mutante. Parce que comme le disait Marco, et c'est vraiment ce qui est fort et ce qui est porteur dans les récits qui tournent autour des X-Men, c'est toujours cette constante opposition, notamment avec Xavier et Magneto, hein, une époque où c'est bon, on est des gens avec des super pouvoirs. Est-ce qu'on asservit les gens avec ça ou est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on n'est pas supérieur à eux alors que plein de gens dans la société les considèrent comme inférieurs? Donc l'histoire justement des X-Men, des mutants, a toujours été intrinsèquement liée à cette inégalité qu'on imposait sur eux.
Oui, puis en fait, il y a toujours la dimension évidemment de fabre sociale derrière ça et je pense qu'à chaque ensemble de super-héros, il y a une thématique où il y a une approche, où il y a une lorgnette particulière par laquelle les histoires émergent, si on peut dire. Et j'avais l'impression, lisant ça, ben évidemment, de nous quatre, je pense que je suis pas celui qui adore le plus les comics ou qui est le plus familier avec l'univers des comics. Donc, mes références sont toujours un peu plus cinématographiques, mais reste que j'ai toujours perçu, évidemment, ce qui est manifeste dans les X-Men, cette opposition-là. Et j'ai eu l'impression, en parcourant Power of X, qu'on partait de ce principe-là et qu'on le poussait, au bout du compte, à son paroxysme. Sincèrement, tu lis ça et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire après avec la série, ou mieux, avec la série? Ça reste un moment assez intense. Et on sent rapidement, d'ailleurs, dans le livre, qu'on est avec quelque chose qui est intense, qui va avoir une importance, mais... autour de laquelle on réussit aussi à créer un suspense. Je veux dire, la séquence arrive assez rapidement où X est avec Moira et elle lui demande de lire dans ses pensées. Là, oups, on comprend qu'il a vu quelque chose d'intense, de dramatique, de life-changing, si on permet l'anglicisme, mais dans le fond, on ne le révélera pas clairement, rapidement non plus. Donc, on nous tient un peu en haleine avec tout ça et dans un récit qui finalement nous amène à explorer une temporalité, un ensemble de temporalités. Je veux dire, c'est hallucinant. D'un point de vue scénaristique, là, tout ça, c'est...
C'est la grande qualité de Hickman. En fait, ça frise le génie, son truc. Parce que, bon, là, à présenter... Le premier épisode présente, en fait, les mutants, Magneto et Xavier, font la visite de l'île aux diplomates et tout, et ils expliquent. Et là, on nous met en scène qu'est-ce qui va arriver. Alors, il montre comment l'île fonctionne avec des portails pour pouvoir voyager et tout ça. Et les plantes qui vont servir à faire 3 médicaments pour aider les humains. Et il explique tout ça. Mais plus tard, ce que va développer Hickman dans la série, le reste de la série, c'est il va y avoir un parlement de X-Men, c'est-à-dire économique, c'est-à-dire je me rappelle plus, mais... c'en est une qui va gérer l'aspect économique de vendre les plantes, de faire le truc avec les plantes. Ensuite, il va y avoir un comité sécurité qui va se charger de ramener à l'ordre les X-Men, parce que là, ils ont une amnistie. Tous ceux qui viennent sur l'île sont amnistiés. Les méchants et les bons vont faire le ménage. Alors, c'est ça. Et tout ça est complexe, mais en même temps, va se dérouler dans cet univers-là. Et ce qu'on pensait égal, ben effectivement là, l'égalité qu'on a voulu avec les humains, cette égalité-là, ben on va s'apercevoir que un coup que tu l'as et que tu comprends que t'as plus, tu sais, la série montrait toujours les mutants, c'est un gène, donc tu nais avec ce pouvoir-là, tandis que je pense Spider-Man s'est fait mort par une araignée, Bruce Banner s'est fait irradier au rayon gamma, mais les mutants, ils naissent comme ça. Et chaque fois que leur pouvoir est percé à jour, ils sont vus comme des monstres et les jeunes paniquent et les jeunes ont peur et les jeunes se sentent rejetés. Et tu sais, normalement, c'est pas comme ça, mais toute la série a été comme ça. T'sais. Et là, pour la première fois, ils ont plus peur, ils sont une nation et tout, et c'est là que c'est que l'égalité, et quand l'égalité arrive, c'est là que ils comprennent facilement que bon, là on peut jouer sur différents tableaux et tu sais les personnages ont toutes des personnalités, alors il y a certaines personnalités qui font en sorte que ils voudraient bien tirer parti de cette nouvelle nation.
C'est un peu plus explosif finalement comme statu quo. Mais là, sur ton conseil, moi j'avais lu juste le chapitre 1, j'ai l'impression que j'ai quelques mesures de retard.
Ah, mais en fait, le chapitre 1, il présentait la chose, là, et dans le chapitre 1, la visite, Magneto explique et donne les conditions pour comment les mutants en tant que nation vont évoluer avec les autres, puis tout du long, il explique, et c'est à la toute fin, la dernière réplique du premier épisode où il se tourne, mais il dit « on est vos dieux, là ». Dans le sens qu'avec le sourire en coin, il fait « Voilà, si vous vous acceptez pas. » Mais dans tout le reste de l'album, moi, ce que je voulais montrer, c'était vraiment l'égalité atteinte.
Oui, l'égalité atteinte, en fait, amène et tire vers d'autres inégalités, vers des cataclysmes, ouais. Vers la fin des choses. Je veux dire, c'est intense par la suite et ça, ça devient difficile de juste lâcher le livre comme tel. Évidemment, on finit par le faire parce que la vie nous rappelle, mais c'est vraiment bien amené là-dessus dans l'exercice thématique et je veux dire vers où il nous amène. Puis de surprise, je veux dire, on ne voit pas nécessairement les choses venir, même si on anticipe le fond des choses, la forme elle-même émerge de façon assez surprenante aussi.
Mais Hickman, il va toujours vraiment au bout du gaz aussi. Ah oui, là. Hein. Puis, en fait, j'adore suivre son travail aussi parce que c'est quelqu'un qui va soigner beaucoup ses concepts. C'est sûr que s'il y a un imprévu, il sera jamais pris de court parce que j'ai l'impression que tout est tellement complexe dans sa tête que il y a pas moyen de le prendre en défaut.
Et tous ces petits graphiques
pour chacun des trucs, je sais.
Où il nous installe... je veux dire, là, quand Magneto fait sa visite, Hickman met en intercalaire en deux scènes. Il met un petit graphique qui nous dit « Ah, là, il vient de parler comment va fonctionner la politique. » Et là, on a tous des petits dessins qui nous montrent qui va faire quoi, puis tout ça. « Ah, là, il nous parle de la plante, comment elle guérit. » Et là, on a une page avec des graphiques où la plante, elle sert à quoi, comment elle est traitée, tout.
Il faisait ça dans Black Monday Murders aussi. Oui. Voici l'organigramme de X société bancaire.
Genre, les personnages qui jouent devant nous et qui se parlent de choses, ben le lecteur, Hickman, dit « Attends une minute, on va t'expliquer c'est quoi. » On n'est jamais, jamais perdu. Et à chaque fois, ça se tient. Et chaque fois, ça vient appuyer. Ça justifie tout ce qui va suivre. Puis en même temps... ça nous le rend crédible.
Puis parenthèse avant de passer à Édouard, dans le fond, pour moi, et je le mentionne pour les autres qui, comme moi, sont pas nécessairement hyper familiers avec cet univers-là, contrairement à d'autres titres que tu nous as fait lire dans le club, celui-là, j'ai pas eu l'impression d'être en perte de repère perpétuelle.
C'est la force d'un gars comme Hickman, puis comme on parlait de Black Monday Murder, mais tu sais, dans Nightly News aussi, dans Pax Romana, c'est un gars qui s'imbibe complètement d'un univers qui le comprend puis qui le décortique et le fait sien d'une manière qui est tellement naturelle puis justement tellement simple que c'est pour ça que je parlais d'un esprit labyrinthique. Je veux dire, sa tête de tout un fouillis là, ça doit être organisé là, mais comme ça a aucun sens là, tu sais, c'est... mais bon, justement, tu sais, parce que là on parle du génie Hickman, mais bon, ce que j'aimais, comme je disais toujours, moi ce que j'ai toujours bien aimé justement avec les X-Men et Marco le soulignait, c'est qu'eux naissent avec ça. C'est pas un choix, c'est pas une décision comme Bruce Wayne, même qui a pas de pouvoir, tu sais, puis qui décide que lui il va être un super héros. C'est comme là tu nais avec une modification génétique. Et à partir de là, ben l'inégalité, le débat est ouvert. Je veux dire, toi, est-ce que tu considères ça comme une mutation, donc une tare ou un défaut, ou est-ce que tu considères ça comme une nouvelle étape dans l'évolution du genre humain, où là, de plus en plus, ben ça va être des gens qui vont développer comme ça des pouvoirs et tout. Et donc là, c'est fondamental là, tu sais, c'est au cœur même, tu sais, de système justement comme fasciste ou communiste, par exemple. Émilie, je me tourne vers toi.
Bonjour.
On l'a pas vu venir.
Ah non, du tout. Hein. Mais donc, parlons justement, ben tu sais, un coup que l'inégalité, en fait, parce que tout ça, comme je disais, ça suit hein, dans ma tête, là, un peu comme Hickman. Hein. Et donc, une fois qu'on a justement cette inégalité qui nous est imposée, avec laquelle on doit composer, ben là, à partir de là, on fait quoi? Eh ben, il y en a beaucoup qui l'acceptent. Parce que c'est plus simple, parce que on connaît rien d'autre, parce que on a peur de l'autorité qui punit hein, assez sévèrement quand on ose se dresser contre elle. Et c'est, je pense que c'est autant d'éléments qui font que justement une lecture comme ça, la boîte de petits pois, j'ai dévoré ça. Dans un, c'est quand même une BD relativement courte, hein, ça se lit bien, on file là-dedans, mais je veux dire, on n'a pas, tu sais, même moi qui je veux dire, autour on étudiant d'histoire là, on a entendu parler du communisme et tout, puis on a entendu parler des lignes puis des affaires, mais justement l'idée que des petits pois peuvent être un luxe tel que ça vous fait perdre connaissance, là, je veux dire, on n'a pas idée, on est beaucoup trop confortable ici dans notre monde et dans nos affaires de comprendre qu'est-ce qu'est le dénuement du peuple russe. Et je parle pas d'un dénuement dans les 50 dernières années. Là, je pense, écoute, c'était ça sous Ivan le Terrible. C'était ça, je veux dire. Le peuple russe a mangé de la bouette à tous les jours. Pendant des siècles, mais on n'a pas idée. Là.
Oui, puis en fait, il y a des scènes aussi où justement cette pauvreté-là, une pauvreté qui est quand même manufacturée par le régime au bout du compte. Et ça aussi, on le comprend clairement que c'est pas un choix au profit de tous. Mais dans le fond, quand dans le récit, on s'en va vers la France, par exemple, ou à travers les yeux de l'enfant qui narre ce récit-là, elle se rend compte que ici, les gens ont beaucoup plus de choses, mais les partagent beaucoup moins. Alors que, par exemple, on nous faisait état d'un enfant qui ramène une efface, par exemple, une gomme effacée, et finalement, tout le monde dans la classe va se la partager parce qu'il y en a tellement pas. Donc, le luxe, on a envie de le partager, tandis qu'ici, il y a quand même cette dynamique-là qui est peut-être aussi justifiée par l'abondance. Et tout ça, en fait, la force, à mon sens, des petits pois, c'est l'approche narrative, en fait, le côté de la naïveté, peut-être, qui est amené par le choix narratif de le faire porter par une enfant. Donc, qui, d'un côté, j'ai l'impression, épargne aux autrices la nécessité d'une analyse sociologique profonde, si on peut dire, ou d'une voix adulte qui porterait un jugement adulte sur ce qui se passe, qui peut-être vivrait l'injustice de façon plus intense, peut-être, versus l'enfant qui, malheureusement, n'a connu jamais rien d'autre, pour qui c'est parfaitement normal de vivre comme ça, les fils, l'absence d'objets, le luxe chez certains qui est, au bout du compte, pour acquis, c'est des gens du parti, ils sont privilégiés, c'est normal. Donc, je trouve que ça met en exergue encore plus qu'une narration plus critique l'aurait faite, les injustices béantes qui sont issues de ce système-là, autant que les défauts de l'humain, autant là-dedans que dans d'autres systèmes aussi qui sont explorés par la bande. Là.
Parce que ça souligne justement bon, le caractère, on disait, enfantin de la perception, mais même en même temps, je me disais aussi, c'est ça l'acceptation. Là. C'est justement, on arrête d'analyser, on arrête de, quand on en cède au fatalisme, c'est la même chose qu'un enfant qui, tu cherches pas d'explication, parce que lui, c'est toujours comme ça. Là, tu cherches plus d'explication, parce que je veux dire, t'as juste carrément abandonné, là, je veux dire, parce que ta vie, tu seras pas un apparatchik, tu seras pas dans les... Voilà, ça va être de la misère tout le temps.
C'est la narration là-dedans, et surtout le fait d'avoir choisi ça comme ça, en fait, ça nous décrit, et tu parlais de l'acceptabilité de la situation, mais les descriptions qui y sont faites, c'est comme quelqu'un qui décrit son quotidien. Là, je veux dire, se lève le matin, bon, je vais chercher croissant café, et elle le fait aussi, mais il y a une acceptabilité, mais il y a aussi un quotidien dans lequel, et au lieu de, et ce genre d'ouvrage-là, qui souvent on est confronté à des auteurs qui, quand ils étaient petits, puis là ils dénoncent, alors on n'a pas la même vision de la chose.
Oui, mais en fait, on le voit à la fin. Hein? Ça, on le voit à la fin, oui, quand elle raconte la discussion qu'elle a avec sa mère. Je pense qu'elle finit par... Elle croise un groupe d'ados qui sont en train de chanter l'International avec des espèces de drapeaux communistes à Paris. Puis elle se dit, mais voyons, mais ces gens-là, ils réalisent pas à quel point c'était l'enfer. Puis elle va avoir cette conversation-là avec sa mère, puis elle a conclu en disant, ben moi, ça va, ça me dérangeait pas tellement de partager ma gomme, mais pour les adultes, c'était un combat qui était beaucoup plus quotidien pour trouver de où se loger, trouver à manger... La fois où est-ce qu'il y a une distribution d'oranges, puis là, il y a trois enfants, mais là, il y a seulement deux oranges par personne, qu'est-ce qu'on fait?
Et puis finalement, la grand-mère va se taper genre 10 heures de fil pour avoir des oranges pour tout le monde. Je veux dire, c'est de l'abnégation, mais pour quelque chose qui, ici, je veux dire, est complètement pris pour acquis. Je veux dire, je vais en acheter 8 oranges, je vais en acheter 2 parce que finalement, on les mange pas, parce qu'on peut se permettre de pas les manger aussi. Ça reste quand même, c'est prendre conscience de ce manque-là ou de ce luxe-là, des dérives autant d'un côté que de l'autre, c'est quand même des lectures qui sont provocantes, mais à différents degrés. Là.
Une des choses qui m'avait les plus marquées là-dedans, je pense, puis peut-être dans la littérature russe en général, je sais pas, j'en parlais avec Edouard il y a pas longtemps, c'est à quel point la corruption n'est absolument pas cachée. T'sais, il y a un magasin spécial où seulement les apparatchiks peuvent aller, où est-ce qu'on ne manque jamais de boîtes de petits pois, par exemple. On n'essaie même pas de se cacher, ou le fait que justement les apparatchiks vont avoir une demeure secondaire à la campagne, dont la famille de Guédry finit par profiter. Moi, j'avais lu ça dans la supplication de Svetlana Alexievitch, où est-ce qu'elle fait la chronique de la catastrophe de Tchernobyl en parlant avec des survivants, puis personne ne s'étonne que la paratchik du coin ben, fasse affréter un train entier pour déménager ses choses, sa famille, sa maison, alors que tout le monde attend sur le quai, puis c'est le quai qui était prévu pour déménager la population. Ça m'étonne toujours.
Ben, tu sais, sans tomber dans les grands préjugés, là, bon, tu sais, ou les conclusions faciles, il y a, comme je disais, traditionnellement, dans l'histoire russe, comme une espèce de fatalité d'acceptation de ce peuple-là, mais en même temps, je veux dire, tu sais, c'est... Quand on parlait, ah, tu sais, quand t'as pas connu mieux, ben, tu fais avec, ben, c'est un peu ça, je veux dire, ils ont passé de régime très, très dur à d'autres types de régimes très, très durs tout le temps. Ils ont enchaîné tout ça. Je veux dire, écoute, le servage en Russie, ça a duré quasiment jusqu'à l'année passée, là. Je veux dire, ça a été les derniers à pratiquer le servage, je veux dire, à travers toute l'Europe. Justement, le régime, écoute, communiste a été, épouvantable. Bon, c'est Staline, on en parle même pas. Écoute,
les tsars étaient pas mieux non plus.
Tu sais, les tsars étaient pas mieux non plus. Puis maintenant qu'il y a la démocratie, ben, Poutine est pas mieux non plus, là. Je veux dire, puis encore une fois, et quand tu parles de corruption, ben, c'est encore une fois, c'est un régime, on dirait que c'est, comme je te dis, ils ont comme plus de surprise à ça, ils ont comme plus d'indignation
c'est
à ça,
en fait.
C'est comme, voilà, c'est une espèce de réalisme du quotidien, dire, ben écoute, la vie, il va toujours avoir de la corruption, puis là, ça sert à rien de se battre contre ça, mais c'est sombre, là, et c'est d'autant plus sombre que justement, tu sais, dans... BD, tu sais, pleine de coloris d'enfants, dessinés aux petits crayons de couleur et tout, pis t'sais, comme... Et la tragédie en arrière, elle raconte, tu sais, mon oncle qui est parti pis qu'il y avait du fun au goulag. Non, il devait pas avoir ben de fun au goulag, là.
Oui, ben, elle disait, dans le fond, ma maman amenait des repas, il mangeait des victuailles, mais il devait lui ordonner.
C'est ça, c'est ça, mais tu sais, tu sais, les gardes qui se servent là-dedans, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est ça, là, cette innocence avec laquelle elle nous raconte tout ça, là,
Enfin, ça revient en fait au préjugé, au choix de narratif, au choix de narrateur, à quel point le choix de narrateur est important dans la perspective qu'on va donner à la BD, dans la résonance que ça va nous donner, parce qu'encore là, je reviens là-dessus, mais le langage qu'elle prend, pour moi, c'est un langage qui est pas faussement enfantin non plus, parce qu'il y a des BD où on tombe dans la fausse enfant, puis dans l'enfance qui est donc bien profonde finalement, où ça devient un personnage d'enfant plutôt que ça sonne comme un enfant, et ici on réussit quand même à rester de façon raisonnable à l'intérieur de la perspective et de la naïveté de l'enfance sans tomber dans le personnage enfantin, si on peut dire.
Tout à fait, tout à fait. Justement, ben, je parlais de l'acceptation, de la fatalité du peuple russe devant tout ça. Mais reste que, tu sais, parmi eux, ben, il y en a qui ont, justement, il y en a qui de par leur volonté de rentrer dans le système, de collaborer avec le système, ou bon, par la chance peut-être de la naissance qui les a mis dans une bonne place comme ça, tu sais, ben ils ont eu la chance de s'extirper, de contourner en fait l'inégalité. Et contourner l'inégalité, ben je trouve que c'est un peu un des fils conducteurs de cette magnifique BD qui est l'Alcazar, tout en orange, dans des couleurs de l'Inde. On sent l'Inde à travers le dessin. Ça, c'est absolument magnifique. Mais je crois comprendre aussi, parce qu'il l'explique à la fin, que l'auteur lui-même est allé sur place, que une bonne partie, justement, des protagonistes, c'est tous des gens qu'il a rencontrés, avec qui il a eu la chance d'échanger.
Un côté documentaire, en fait.
Et c'est ça, là, qui donne quand même aussi une crédibilité puis une véracité derrière tout ça. Et d'autant plus intéressante que, bon, l'Inde est une terre qui a quand même été une terre d'inégalité. Bon, là, on parle quand même, je pense, visiblement plus de d'Indiens musulmans que hindous. Mais je veux dire, il y a quand même le système de la société des castes en Inde qui fait que, ben, tu nais dans une caste, il n'y a aucune mobilité sociale, puis tu es circonscrit à soit le haut du pavé, soit le très, 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 très bas du pavé. Mais là, tu sais, on a une Inde, justement, bon, un petit peu musulmane, un petit peu plus moderne et tout, et on voit la disparité entre ceux qui gardent, eux autres, t'sais, pour qui le rêve, c'est juste de pas avoir de patron, t'sais, quitte à vivre modestement, pis à rien avoir, mais t'sais, moi, mon but, c'est de pas avoir de patron. Alors que d'autres, eux, ben, c'est d'essayer de s'accoler aux plus riches pour grimper, pour qu'on ait des contrats, pour se hisser dans la hiérarchie sociale à coup de contrat, à coup d'argent, à coup de contact. Donc, t'sais, c'est comme ça que je disais qu'on contourne l'inégalité, dans le fond, là,
Oui, on contourne l'illégalité ou on essaie d'en profiter ou de sortir de sa station. Puis il y a, je pense que tu résumes bien. En fait, il y a comme toujours la volonté de l'autre chose et de voir que même dans une ère moderne, ben dans le fond, il y a des éléments très traditionnels au bout du compte qui restent, qui demeurent, et donc ça reste, ça semble toujours difficile de s'extirper et d'atteindre, si on peut dire, une certaine égalité dans le fond réelle à travers ça. Et je trouve que le fait d'avoir mis, je le disais en introduction, de l'avoir mis autour justement de la construction de l'immeuble, ben, ça ancre un lieu et ça devient un microcosme dans le fond par lequel on peut analyser, comprendre, vivre entre guillemets ou s'immerger dans ces dynamiques-là. Et en évitant quand même une approche qui est misérabiliste aussi. Dans le fond, je pense pas qu'on vise à nous faire prendre en pitié ceux qui, mais plus à nous offrir un récit qui est raisonnablement objectif autour de ça, avec des éléments de fiction qui vont nous permettre de nous attacher à certains personnages, d'avoir d'autres personnages qui sont peut-être un peu moins affables, moins sympathiques, mais dans le fond, de comprendre d'abord et avant tout la dynamique sociétale qui est derrière tout ça.
Puis d'avoir choisi l'immeuble. En fait, le personnage principal, c'est l'immeuble. À mon avis, tout le microcosme qui vit autour, il marque le temps. Il marque le temps parce que on a des pleines pages à un moment donné où on voit le fameux immeuble avancer dans sa construction. Mais il y a aussi ces personnages qui, n'ayant pas d'expérience en construction, débarquent et plus ils s'élèvent, plus on le finit, plus ils vont prendre de l'expérience. Ils savent, leur vie va avancer dans le temps, vont prendre un autre tournant, va prendre une nouvelle direction, peut-être que choisir celle-là. Et c'est l'immeuble qui dépend de ça. C'est l'immeuble qui, au fur et à mesure qu'il s'élève, va donner une chance au personnage de peut-être s'élever. Et je trouve ça fascinant d'avoir placé cet immeuble-là. En tout cas, moi, je ne voyais que ça à un moment donné. Je voyais que ça avec le temps qui était marqué par cet élément-là.
Mais j'aime bien d'ailleurs aussi comment Raymond souligne, tu sais, comment il y a cette espèce de d'absence de misérabilité, parce que en effet, tu sais, je veux dire, tu regardes, tu sais, il y en a quand même que, je veux dire, le simple ouvrier, ceux qui sont comme pas qualifiés, je veux dire, le mode de vie est très 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 modeste là, hein. c'est une petite maison en parpaing, en bloc de ciment avec une toile dessus, mais à chaque fois, eux ont l'air comme parfaitement heureux de leur vie là, je veux dire, justement, ce sont pas tristes, ils célèbrent, puis ils ont du fun, puis je veux dire, le cousin un tel vient, puis on a des nouvelles, la sœur de tel encore une fois, puis ça nous met dans ce cas-là, je trouve, un peu en contrepartie de la boîte de petits pois, ça nous met un peu comme en confrontation, parce que dis, en même temps, bon, tu sais, d'un côté t'as du monde qui ont que dalle, puis c'est la misère, puis c'est épouvantable, puis tout, de l'autre côté, ben t'as du monde qui ont que dalle aussi, mais qui
en ont fait un mode de vie.
Oui, qui en ont fait.
Puis en même temps, je veux dire, le que dalle des ouvriers qui sont si modestes dans l'immeuble, mais dans le fond, nous amène à se dire qu'il y a un que dalle encore pire en campagne aussi. Au final, si pour eux ça c'est un avancement, c'est une progression ou c'est la promesse d'une progression, ben d'où partent-ils? Il y a aussi ça dans le microcosme qui est évoqué sans être montré comme tel.
Oui, oui, c'est vrai. Ben justement, avec toutes les batailles qu'on a au sujet de la paye, il y a un personnage, je crois, qui s'en va voir son patron et dit, ben là, ça fait 2 mois que tu m'as pas payé, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis bon, le patron remet toujours ça à plus tard. On sait jamais si c'est parce qu'il a l'argent puis qu'il veut pas y donner ou parce que pour lui, ça a absolument aucune importance. Puis pour eux, c'est vraiment l'occasion de faire la passe de cash, rembourser leurs dettes, s'installer à la campagne, bon, en espérant que dans le village qu'ils ont laissé derrière, ils sont pas partis depuis tellement longtemps que ce qu'ils avaient a été récupéré par d'autres. Puis, je sais pas, ce que je trouvais absolument génial dans cette bande dessinée-là, c'est à quel point cet immeuble-là est comme une espèce de numéro d'équilibriste, parce que on a des ouvriers qui sont pas qualifiés, on a quand même une bonne rotation de personnel, il y a beaucoup de personnages qui partent ou qui arrivent au courant de la bande dessinée, il y a un des personnages principaux qui est absolument pas qualifié pour faire de la construction, on va même volontairement mal construire pour être mieux payé, je pense, à un certain moment donné dans la BD, il y a un client qui se pointe, il dit, ah ouais, bon là, l'agencement des pièces c'est pas exactement comme je voulais, peut-être qu'on pourrait défaire un mur là, puis en construire un là, puis arriver au bout de la BD, on se dit, ben merde, ça tient. Je comprends pas comment, mais ça tient.
Ils finissent puis voir aussi l'organisation, il y a une espèce de contremaître qui vient, il va, et
ah,
vient,
oui,
arrive et tout. Et on pense que c'est le boss, mais soudainement le boss débarque, puis il reproche, puis il va recommencer. C'est fascinant, même dans l'organisation de la gestion.
Oui, oui,
il y a,
oui.
Il y a ça, il y a une hiérarchie, puis il y a ça aussi. Là.
Celui qu'on nous présente comme l'ingénieur, qui est finalement même pas ingénieur pour vrai, qui est en train d'étudier pour devenir ingénieur, on se demande comment cet immeuble-là tient.
Comment une société peut tenir avec tous ces...
Non, mais ça te permet de s'interroger beaucoup sur bien des projets de construction qu'on a eu ici au Québec. Hein, donc, finalement, comment ça s'est goupillé, tout ça? Hein? Non, mais bon, tu sais, parce que le plus drôle, c'est que je fais une très, très brève parenthèse, mais ayant travaillé dans le domaine des ascenseurs, ben oui, hein, on a un passé. Mon Dieu, moi, quand les ingénieurs, puis l'architecte, puis là, lequel, puis le gars qui lui finance et tout, quand tout le monde, justement, comme dans l'Alcazar, là, tout le monde part avec sa vision, puis là, il y a le gars qui veut le salon, puis le gars qui veut deux salons, puis t'as le gars sur place qui dit, écoute, moi, je peux même pas t'en fabriquer un avec la place que j'ai là. Mais tout ça rentre en clash, puis là, un moment donné, c'est l'argent qui finit par parler, et c'est lui que je veux pointer, parce que c'est lui le moteur de l'inégalité depuis le début. Mm-hmm. C'est lui le moteur de, tu sais, je veux dire, il y a la naissance, il y a le mais l'argent, c'est lui qui nous débalance tout le reste, ou c'est la façon dont on traduit cette inégalité là de manière, disons, concrète, pour mettre des gens dans le statut de travailleur et donc dans le statut de dirigeant. Et ben, tu sais, le château des animaux, c'est ça. C'est juste que, tu sais, au lieu d'avoir de l'argent, ben là, c'est carrément la force de travail des gens. C'est ce qu'ils apportent. Mais on est dans cette dynamique-là, encore une fois, qui est peut-être d'autant plus, peut-être, qui crée d'autant plus un clash que là, évidemment, on est avec des animaux. Donc là, il y a des disparités, bien sûr, de grosseur. Hein, le boss, c'est Silvio. C'est un bœuf. Il est gigantesque. Hein, c'est un grand taureau. Il aime bien les médailles. Aussi, c'est sûr que c'est un clin d'œil à Berlusconi. Ça se peut comme pratiquement pas que ça soit pas le cas, tu sais. Mais, tu sais, lui, c'est-à-dire, sa garde rapprochée, c'est les chiens. C'est des prédateurs, c'est des carnivores. Et je veux dire, la force de travail, ben c'est ça là, c'est tout des herbivores, ou c'est des chats, c'est des plus petits, hein, des plus petits prédateurs et tout. Donc là, on va vraiment accentuer à quelque part la force de ces inégalités là par justement l'ajout de bêtes qui sont justement plus grosses ou plus menaçantes. Mais au final, quand tu décortiques tout ça, ça reste encore la même source d'inégalité, là. C'est ceux qui en ont, ceux qui en ont pas. Puis c'est là-dessus aussi que les animaux vont combattre. Parce que là, pour combattre l'inégalité, on fait quoi? Ben, si on n'a pas d'argent, si on est la force de travail, ben, on affecte ça, on sabote ça. T'sais.
Oui, puis c'est en fait, je veux dire, un guide des deux côtés. Parce que d'un côté, dans le fond, il y a toute l'analyse. Parce que là, on tombe là-dedans, on tombe dans on le décortique presque à travers les scènes, les personnages. Mais de quelle manière on réussit à asservir des gens et à convaincre des gens que c'est normal, d'un côté, et de l'autre, un peu aussi à travers l'exemple de révolutions plus pacifiques comme celle de Gandhi, qui sert essentiellement de prototype, si on peut dire, pour la révolution qui est entamée par les personnages. Ben, on nous montre aussi comment ébranler un régime de peur, comment on réussit à ébranler un régime autoritaire, mais tout ça ne se fait pas non plus sans sacrifice, des sacrifices de vie autant que des sacrifices de relations, des sacrifices de confiance et le reste, et c'est extrêmement riche. En fait, je te dirais, la grande frustration que j'ai vécue en lisant ça, c'est que le quatrième tome n'est pas sorti, mais je veux dire, en termes d'analyse, je pense que c'est que tu faisais référence à Orwell, à l'hommage derrière ça, mais il y a une richesse qui est équivalente dans la critique documentée d'un système défaillant et de la manière par laquelle, même de manière insignifiante avec des images de fleurs, on réussit à ébranler cette autorité-là jusqu'à justement amener des changements assez fondamentaux, assez drastiques, pas nécessairement pour le mieux, cela dit, mais je veux dire, c'est excellent, là. C'est très bien fait.
Puis en plus, quand on avance du début jusqu'à à peu près le milieu de du premier album, je veux dire, on a notre dictateur, on a comment le système qui l'a implanté. Et là, à un moment donné, on comprend là que les denrées, ils se les approprient. Mais à un moment donné, il s'en va avec sa charrette et on comprend que c'est pas lui le dictateur. Là, je veux pas donner de punch, mais je veux dire, c'est pas lui le dictateur. Lui, il ne fait ça que pour échanger, faire du troc pour pouvoir survivre dans sa ferme avec...
Puis garder un certain train de vie avec sa petite cour à lui.
Il en profite.
C'est ça, c'est le petit duc versus le roi, dans le fond.
Tout à fait. Tu sais, la peur qu'il donne à sa cour, à sa ferme, ben, il a subi aussi de l'autre côté. Là. C'est comme quelque chose qu'il transmet. Tu sais, comme il a appris à transmettre. C'est comme si être un dictateur, il l'avait appris de...
Ben, je sais pas, j'ai l'impression que c'est surtout la peur de perdre son train de vie. T'sais, la peur de perdre ce qu'il va obtenir en échange. Je pense que lui, c'est principalement du champagne, mais c'est un peu la menace de l'autre à l'autre bout qui dit « Ouais, là, écoute, si tu continues à m'apporter des affaires de marde de même, je viendrai plus, t'sais. » Puis, c'est aussi incroyablement paradoxal que celui qui représente le plus la force de travail par, justement, je pense qu'on le voit au début du troisième, le bœuf, qui est le bœuf Silvio, qui est le dictateur de tout ce petit château-là, on le voit jamais au travail. Même dans la charrette, il se fait porter dans charrette, tiré par d'autres personnes.
Oui, puis en fait, c'est qu'il cherche à préserver un certain statut ou à certains points qu'il a peut-être la peur aussi de s'il accepte des demandes, mais qu'il va se déstabiliser, qu'il va perdre ce statut-là, qu'il ne sait pas non plus à quoi s'attendre de l'autre côté. Mais c'est après ça, il regarde, en fait, il y a pratiquement des scènes, il observe les éléments, on le voit manger des auges de champagne. Genre, c'est ce train de vie-là, pendant que ses ouvriers, ils sont en train de s'affamer, pendant qu'on apprend que lui, il les force à acheter du bois pour se réchauffer l'hiver, alors que c'est eux-mêmes qui vont récolter le bois. Je veux dire, il y a une série de non-sens, et quand on regarde ça de façon objective, effectivement, ça n'a aucun sens, mais quand on regarde à travers le truchement d'animaux ou de personnages qui ont toujours connu ça, ben on comprend que ça reste ancré et on se dit, ben dans le fond, est-ce que j'ai envie de risquer, moi, de perdre le peu de confort que j'ai et de m'opposer à ces non-sens-là, ou à l'inverse, ben est-ce que je dois faire ce sacrifice-là et me soumettre, dans le fond, à cette autorité-là pour préserver mes deux petits morceaux de bois, pour préserver le peu que j'ai, mais qui est nécessaire, malheureusement, pour que ma famille survive.
Puis il y en a qui se sont fait un petit quotidien aussi, le lapin. Lui, son affaire roule, là, dans le sens que certains personnages, acceptent, comme dans Les Petits Pois, surtout l'acceptation de la situation et tout. Tu sais, c'est évidemment, là, ça va prendre des personnages qui, eux, vont s'élever puis vont vouloir peut-être brasser les choses, là, et les autres vont suivre. Mais en attendant, dans ce contexte-là, c'est... Et tu sais, comme tu disais, c'est des animaux et ils sont habitués d'être et de faire ces choses-là la plupart du temps.
Ouais, ben c'est justement quand je parlais de, tu sais, on l'a parlé avec le régime russe aussi, justement, tu sais, quand t'as rien connu d'autre... Un moment donné, ton quotidien, ben c'est ça, tu t'acceptes cette inégalité fondamentale-là, mais là, tu sais, on est justement dans un contexte où on comprend que justement, tu sais, Silvio aussi, lui, c'est ça, il a été un bœuf de labour, il s'est élevé par de la magouille, parce que c'était le plus gros, puis parce qu'il y a eu l'intelligence de la fameuse menace des loups, faut pas l'oublier aussi, c'est ça qui est intéressant, il est toujours en train de menacé, en fait, c'est quand ils disent, oui, tu sais, mais là, si on n'a plus de chiens, puis là, si la vous ne m'aidez plus, les loups vont rentrer en place, puis ils vont manger tout le monde, les loups vont manger, puis t'as toujours une couple d'animaux, faut... ouais, mais tu sais, nous autres, on est allés dans le bois, puis les loups, on n'a pas vu ben, là, tu sais, mais c'est l'intelligence de la manipulation, je veux dire, encore une fois, c'est ça, le dictateur, là, c'est, tu sais, puis ça raccorde aussi, tu sais, justement, avec la boîte de petits pois aussi, parce que, tu sais, on parle un moment donné des médias et de cette désinformation, et de montrer que, ah, oh, mon Dieu, mon accident, c'est comment qu'il y avait de la misère et tout, alors que c'est complètement de la bouette, là, mais tu sais, tu peux pas montrer aux gens la vérité de ces choses-là. Et d'arriver à ce point, je dirais, d'ironie ou de pitrerie, parce que là, je veux dire, ça n'a plus de bon sens, et même dans les châteaux des animaux, ben, je veux dire, un moment donné, tu sais, c'est ça, le petit chat, puis bon, les oies et tout, ben, vous voyez bien que là, ça, tu sais, c'est plus juste maintenir justement ces deux petits bouts de bois puis son sa propre survie à eux. C'est, je veux dire, c'est entretenir un monstre qui va constamment grossir et grossir et grossir comme ça jusqu'à bon sens, jusqu'à éclater là. Puis oui, ça impose d'un côté que oui, il faut être prêt à, t'sais, justement à abandonner ces deux petits bouts de bois pis aller de l'avant avec tout ce que ça impose de sacrifice et tout, mais je veux dire, si c'est ce que ça prend pour rompre une inégalité comme ça, ben coudonc.
Oui, puis dans un contexte où effectivement, tu sais, il y a une scène aussi qui est assez parlante où dans le fond les gens, les ouvriers arrêtent de travailler ou disent ben regarde mords-moi, vas-y, punis-moi, mais finalement, tu sais, ils disent ben regarde, si lui j'y fais ça, si lui j'y fais ça, si lui j'y fais ça, mais ben, ils peuvent plus travailler. Et si éventuellement il y a trop de gens qui peuvent plus travailler, ben lui par rapport à justement son dictateur à lui, ben il perd la capacité de fournir ce qu'il a besoin pour garder son statut. Donc finalement on se rend compte que l'équilibre tient plus à l'illusion qu'à un réel équilibre juste des fonctions au bout du compte. Donc c'est l'illusion de l'inutilité versus l'utilité, et que finalement l'utile qui est présenté n'est pas nécessairement en réalité l'utile comme tel.
Ben voilà, c'est le fondement de l'inégalité, ça, chers amis. C'est pas eux qui sont grands, c'est nous qui sommes à genoux.
Alors, ben, en fait, c'est une belle pensée, une belle image pour conclure ce club qui amène, en fait, je pense, quatre belles lectures, d'ailleurs, qu'on vous recommande les quatre. Je pense qu'on s'est mutuellement séduit. On a lu La boîte de petits pois de Guédré et Oli R. chez Delcourt, Le château des animaux, les trois tomes de Xavier Dorisson et Félix Delep chez Casterman, le quatrième s'en vient. L'Alcazar de Simon Lamouret chez Sarbacane et X-Men Power of X de Jonathan Hickman, Pépé Larraz, Herbie Silva et Marté Gracia chez Marvel Comics. Émilie Roy-Briand, Édouard Tremblay, Marco Duchesne, un grand merci à vous trois.
Plaisir.
Un plaisir.
Et évidemment, on se revoit le mois prochain pour un autre club de lecture. C'était Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir évidemment d'être avec vous cette semaine. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition de La vie en BD.